Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Mavignier, le cofondateur de Circulaire, le premier réseau international des startups de l'économie circulaire. Salut Raphaël, je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Salut, merci beaucoup.
Tu viens d'où là d'ailleurs ? T'es loin ?
Je suis juste à côté. On vient d'aménager dans nos nouveaux bureaux avec notre équipe à Sentier, donc à 8 minutes
oui.
À pied.
Ah bah super, j'allais te demander comment t'es venu, mais à pied oui.
Top.
Bon, alors raconte-moi un petit peu, bon, c'est moi qui suis venue te chercher parce que je trouvais que c'était hyper inspirant, mais je préfère que ce soit toi qui nous raconte ce que tu fais, comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Thèse, antithèse, synthèse, vous avez une heure.
Ok, parfait. Eh ben, Circulaire, ça commence il y a un peu plus de 6 ans maintenant. À l'époque, je travaille au Mexique chez Airbus et ma mission est de vendre des avions pour le gouvernement mexicain et les compagnies aériennes mexicaines. Donc j'apprends beaucoup de choses, mais en même temps, grosse quête de sens, parce que je suis un passionné d'environnement, un passionné de l'océan, et je me retrouvais pas vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Mais c'est aussi à cette époque que j'ai eu la chance de rencontrer Jules Coignard, mon ami et aujourd'hui associé. Et très rapidement, on se rencontre. Jules travaillait chez Airbus, lui aussi au Mexique. Et on se rend compte qu'on est tous les deux passionnés des océans, deux surfeurs, et on a tous les deux très envie de monter notre entreprise. Oui.
Ah.
Exactement. Et d'ailleurs, on est à Paris et à Biarritz, voilà, pour pouvoir joindre l'utile et l'agréable. Et donc, on commence à se dire, on aimerait bien monter notre propre structure dans la protection de l'environnement. Quelles sont les thématiques qui nous animent ? La protection des océans, c'en est une. Et on se dit, ce serait pas mal de partir faire un tour du monde sur ce sujet-là. Et puis, à la suite de ce tour du monde, créer notre entreprise. Et une des problématiques qui nous touchait particulièrement, c'était la pollution plastique des océans. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une petite vidéo qui a pas mal défrayé la chronique il y a quelques années qui disait qu'au rythme de production actuel, il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici à 2050. Et aujourd'hui, c'est déjà le cas. Au nord du Cap Corse, tu as déjà plus de plastique que de plancton. Donc, c'est une vraie réalité. Et on s'est dit, en fait, il y a plein de solutions qui existent pour retirer ces déchets des océans. Donc, allons les découvrir, les mettre en lumière et puis voir comment on peut les aider par la suite.
J'avais pu voir d'ailleurs à ce sujet-là, puisque je suis un jeune surfeur, parce que j'adore le surf, sur Instagram, Kylian, qui était allé faire du surf dans des îles paradisiaques et qui avait montré ce plastique sur cette île incroyable et ça m'avait choqué.
C'est une catastrophe, et ça continue. Par exemple, si on va en Indonésie, 90% du plastique qui est utilisé en Indonésie finit dans les océans. Donc c'est une vraie réalité. Et du coup, quand on s'est aperçu de ça, on s'est dit, on a envie de quitter notre emploi et de monter un tour du monde autour de ce sujet-là. Donc, on a commencé à interviewer différents experts depuis nos bureaux. On s'enfermait dans nos bureaux chez Airbus. On travaillait plus pour Airbus, mais pour nous.
Qu'ils le savaient? Parce que si c'est ça va être, on peut
pas
les taguer.
Vraiment, je pense. Pas vraiment.
Coucou.
Mais au moins, ils nous ont permis de préparer ce projet. Et en fait, ça se passe très bien. On interviewe différents experts pendant 4-5 mois et on prépare le projet. Et puis, à un moment, on a un appel avec l'IFREMER. Je sais pas si tu connais.
Bah oui, complètement. C'est même une haute institution pour...
Exactement. Spécialiste des océans. Et on leur dit, on va faire un tour du monde pour lutter contre la pollution plastique des océans. Et ils nous disent, les mecs, vous tapez à côté de la plaque parce que 70% des déchets qui sont dans les océans viennent en fait des continents. Donc, attaquez-vous à la source du problème. Donc, ça a remis en cause tout notre projet. Mais ça nous a permis aussi de découvrir la notion d'économie circulaire, qui à l'époque était très peu connue. Et nous, on est tombé amoureux de cette notion parce qu'il y avait à la fois comment j'utilise intelligemment les ressources naturelles et puis à la fin, comment je ne produis pas de déchets. Et on se rendait compte que il y avait la Fondation Ellen MacArthur qui venait de se monter à l'époque sur le sujet en Angleterre, l'Institut de l'économie circulaire en France, mais qu'on avait très peu d'informations sur ce que faisaient les entrepreneuses et entrepreneurs sur le sujet. Et donc, on se dit, c'est parti. On quitte notre emploi chez Airbus et on part faire le premier tour du monde de l'économie circulaire. Et donc, on a quitté Airbus. C'était en 2015. On est rentré en France. Et dans un premier temps, on a créé une association dont l'objectif était de faire le premier tour du monde.
Du coup, tu as eu des partenariats avec des entreprises pour t'aider à financer ça?
C'est ça. On a été assez surpris. En fait, en 6 mois, on a réussi à lever un peu plus de 100 000 euros auprès de grands groupes. Donc, Air France, Suez, Vinci, Patagonia. Et ça nous a permis de partir 17 mois, donc un an et demi, dans 22 pays, à la fois en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, mettre en avant tous ces porteuses et porteurs de projets sur l'économie.
C'était en quelle année, ça?
C'était entre 2016 et début 2017. Voilà. Et le constat qui était assez génial, nous, ce tour du monde, on l'a fait pour se rendre compte qu'on avait les solutions pour mettre en place cette économie circulaire. On n'en était pas convaincus. Et honnêtement, à chaque fois qu'on sortait de rencontres, on se disait, mais en fait, on a déjà toutes les solutions pour mettre en place une économie durable. Et donc, on est revenu avec le sourire, avec énormément d'énergie. Et du coup, on a transformé au retour notre association en entreprise.
Et du coup, comment ça marche aujourd'hui, cette entreprise ?
Eh ben, aujourd'hui, on fait le pont entre un peu plus de 600 porteuses et porteurs de solutions un peu partout dans le monde, des entrepreneuses, entrepreneurs de l'économie circulaire.
Donc, tu as doublé depuis 2018, parce qu'en 2018, c'est 350, j'avais lu ça.
Ouais, ça augmente rapidement.
Énorme.
Et surtout, ça ne fait que grandir. Je pense que là, les sujets environnementaux sont en train d'exploser, que ce soit au niveau législatif, au niveau citoyen, au niveau des innovations. Et donc, on le voit à travers la taille du réseau qui grandit de jour en jour. Et en fait, on fait vraiment le pont entre ces porteurs de solutions un peu partout dans le monde et les grandes entreprises qui sont certes les principaux pollueurs, on en parlait tout à l'heure, mais qui ont aussi la capacité de faire passer ces solutions à petite échelle, à grande échelle.
Et de faire bouger les choses. Tu sais qu'hier, je parlais avec justement quelqu'un dans les cosmétiques et qui me disait, mais moi, le problème, c'est que mes emballages, le problème, c'est que le plastique, pour le moment, il ne peut pas être recyclé parce qu'il n'y a pas encore assez de demandes. Alors, contrairement aux emballages dans l'alimentaire plastique, quand tu as des grands groupes comme Coca qui font les démarches pour avoir du plastique, des bouteilles en plastique recyclé, eh bien, ça fait bouger les choses. Et donc, c'est pour ça que finalement, on a besoin des grandes entreprises pour faire avancer tout ça.
Bien sûr, bien sûr. Et en plus, c'est aussi une volonté en tant qu'entrepreneur et start-up de développer sa solution à grande échelle. Et vraiment, les entreprises, c'est l'occasion de le faire. Et en fait, qu'est-ce qu'une grande entreprise Coca, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une union de personnes. Et au sein de ces grandes entreprises, au sein de Coca, il y a des personnes qui sont extrêmement motivées, des intrapreneurs qui ont envie de changer la donne, qui n'ont pas forcément sortir de l'entreprise pour créer sa start-up ou son association et avoir de l'impact, mais qui ont envie de transformer l'entreprise de l'intérieur. Et ces gens, ils ont énormément à faire et énormément d'impact parce qu'ils connaissent l'entreprise depuis 10-15 ans, ils connaissent parfaitement les rouages. Et donc, s'ils arrivent à mettre en place l'économie circulaire à l'intérieur, ça peut aller très, très vite.
Non, mais c'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux me donner des noms d'entreprises et de startups qui bossent avec vous?
Bien sûr, bien sûr. Alors, au niveau des startups, bah, par exemple, je vais te dire une entreprise avec laquelle on a travaillé, c'est Sodexo. Sodexo nous a contacté.
Il y a matière pour Sodexo.
Il y a matière.
Moi, j'aime bien justement voir que des grands groupes, au lieu de se dire « Ah, Sodexo, mon Dieu !» En plus, ça me rappelle, tu sais, la cantine scolaire où franchement, c'était quand même pas terrible. Hein. Tu sais, Sodexo, toi, ouais, c'est pas l'étiquette de « Oh, c'est génial, là, je vais manger ailleurs !» Mais et finalement, de voir que des grands groupes comme ça se bougent, moi, je trouve que c'est…
Ça se bouge et là c'était vraiment en fait ils se sont rendu compte qu'il y avait une forte volonté politique de la part des institutions européennes. Eux, ils sont prestataires de services de la Commission européenne et la Commission européenne, je sais pas si tu te rappelles, a fait une loi pour la fin des plastiques à usage unique d'ici 2021. Sauf que si tu vas dans les institutions européennes, il y a plein de plastique partout. Donc ils se sont dit, on fait une loi là-dessus, on n'est pas réglo. Donc ils sont allés voir. Exactement. Ils sont allés voir leurs prestataires de services, Sodexo, en leur disant, vous vous débrouillez, mais moi, 2021, je veux plus de plastique dans mes institutions. Et donc, Sodexo nous a contactés en nous disant, voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter des solutions pour qu'on mette en place une institution européenne sans plastique? Et donc, on est allé en Belgique, aller voir une institution européenne, voir d'où venait le plastique, les choix qui avaient été faits. Et on a présenté plusieurs solutions pour qu'ils passent à une institution européenne sans plastique. Et dans les solutions présentées, il y a notamment une entreprise qui s'appelle Couvi, c'est des couverts comestibles. Qui est portée par Tiffaine, qui est une super entrepreneuse. L'orge, c'est de la... Ça part à partir d'orge, de blé, sans gluten.
Ah, c'est blé, gluten, du coup.
Je t'avoue que je ne suis pas 100%.
T'as pas regardé, parce que ça peut être très... Ouais.
Donc ça, c'était...
C'est ton pain, ça remplace ton pain, en fait, tes couverts.
En plus. Et après, tu avais, pour la vente à emporter, avant, c'était dans du PLA. Donc, c'est ce plastique à partir d'éléments végétaux, mais qui aujourd'hui n'est pas forcément recyclable. On a du mal à recycler. Et donc, on a présenté un projet français qui s'appelle Niji. C'est des lunchbox durables.
Ça me dit quelque chose.
Qui sont faits à partir de plastiques végétaux aussi, qui sont réutilisables. Et donc, en fait, tu vas maintenant chercher ta lunchbox Niji au sein de cette institution. Elle est consignée et puis tu peux la réutiliser. Et finalement, depuis qu'on a accompagné ce projet, donc il y a le comité de région européen qui est complètement sans plastique. Et puis, il y a trois autres institutions en Belgique qui sont sans plastique. Et donc, c'est l'équivalent de 300 000 unités de plastique évitées chaque année.
C'est énorme.
Ouais.
Et quels sont les prochains challenges, du coup, pour toi et ton entreprise?
Bah là, c'est continuer à accélérer, continuer à d'avoir des success stories comme ça. L'année dernière, on a accompagné Eurostar, qui nous a demandé aussi de faire le premier train sans plastique à usage unique. Donc, on les a accompagnés pendant un an et on a réussi à mettre ça en place grâce à notre équipe qui a vraiment assuré. D'ailleurs, le succès de Circulaire, c'est aussi, et je leur fais un petit coucou, dû à notre équipe. Et au bout d'un an d'accompagnement, on a réussi à faire un premier train pilote sans plastique à usage unique.
Et donc, ça a eu lieu. Qui a réussi à être un peu évangélisé ou pas? Est-ce qu'il y en
alors,
a d'autres?
Tu as eu un premier trajet, c'était le 14 novembre dernier.
Avant qu'on ait les gilets jaunes, les grèves.
Exactement.
Le Covid.
Et tu en as eu un deuxième, c'était en février, entre Paris et Rotterdam. Et donc là, en termes d'indicateurs, potentiellement, si c'était développé à grande échelle, ce serait 1 million de bouteilles en plastique évitées chaque année. Donc l'idée, voilà, les futurs défis, c'est de continuer à avoir des success stories, des histoires à succès comme ça avec des grandes entreprises et montrer que c'est possible et montrer que justement les grands groupes s'engagent et qu'ils s'engagent avec des porteuses et porteurs de solutions qui ont des solutions toujours de plus en plus innovantes.
Et demain, si je suis une grande entreprise et que je sais pas faire, imaginons, voilà, moi dans mon ADN, je suis clairement pas éthique. Est-ce que je peux me dire bon, je vais me rapprocher du coup de Circulaire, ils vont m'aider, ils vont me trouver des solutions. C'est comme ça que ça fonctionne finalement.
C'est comme ça que ça fonctionne et au tout départ, quand on a lancé Circulaire, on s'est vraiment demandé comment on accompagne un grand groupe à faire de l'économie circulaire. Et en fait, on s'est pas mal rapproché d'entreprises un peu modèles dans son application, donc Patagonia que tu connais bien, qui est cette marque de vêtements d'outdoor, et puis Interface qui fait des dalles de moquette éco-conçues. Alors c'est pas très sexy comme ça, mais ils font 1 milliard de chiffre d'affaires. Et dans les années 90, ils sont passés d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et en fait, en l'espace de 20 ans, ils ont fait 450 millions d'euros d'économies. Donc, ça montre qu'au-delà de l'impact environnemental, l'économie circulaire, financièrement, c'est intéressant. Et donc, ils nous ont dit, pour accompagner un grand groupe, il y a vraiment 3 étapes. Étape 1, convaincre de la pertinence du business model, à la fois le top management, mais aussi les collaborateurs. Étape numéro 2, vous n'allez pas transformer un Danone, Unilever du jour au lendemain, mais identifier une problématique précise qu'ils ont liée à un matériau, liée au nouveau business model, liée à la fin de cycle de vie, et monter un projet pilote sur le sujet qui va fonctionner en 5 mois, et ça, on le fait avec des startups. Il faut qu'il y ait une rentabilité économique pour que ce soit pérenne dans le temps, sinon ça va se perdre, et un fort impact environnemental. Et une fois que vous avez fait ce projet pilote qui marche, communiquer dessus pour sensibiliser d'autres personnes et lancer d'autres projets pilotes. Et là, tu rentres dans une boucle vertueuse. Donc, c'est un peu notre mode de fonctionnement.
Donc, tu les accompagnes aussi sur la communication?
Non, nous, on n'est pas du tout des experts de la communication. On les accompagne à la fois sur la sensibilisation, formation.
Et pour le reste, c'est les
et pour la mise en place. Et la communication, c'est vraiment un art à part entière que tu fais très bien. Et c'est un sujet extrêmement sensible aussi parce que intervient la thématique du greenwashing. Comment je communique? Nous, c'est clairement pas notre métier. Il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Mais par contre, en tout cas sur la communication, nous, ce qui nous inspire beaucoup, c'est des marques comme Fairphone, donc le téléphone qui est un téléphone qui est 100% éco-conçu, et Veja, qui ne sont pas Veja. Forcément parfaits, mais qui affichent sur leur site, en fait, voilà ce qu'on arrive à faire, voilà là où on n'arrive pas à être parfait. Et en fait, même s'ils sont pas parfaits, grâce à cette transparence, tu crées une relation de confiance avec ton client. Et je pense que ça, c'est la clé dans la communication parce que personne n'est parfait en économie circulaire.
Veja, d'ailleurs, je plus sois et je lui passe le petit coucou parce que j'ai vu vendredi dernier le fondateur et il m'a dit, écoute Alice, je fais un podcast par an, pas plus. Je ne sais pas lequel je vais choisir, donc on verra. Et il m'a dit qu'il allait écouter en boucle l'empreinte pour savoir s'il me choisissait. Donc, j'espère qu'il m'a choisi. Voilà, j'adorerais l'avoir dans l'empreinte. Mais j'ai adoré justement son... Moi, j'adore quand on me dit non, de toute façon. J'adore l'authenticité et j'ai trouvé hyper authentique. Il me dit non, mais je veux pas faire trop de pub. Mon but, c'est de... Je lui dis, c'est pas de la pub. Je veux juste écouter et comprendre. Et il est non, j'ai trouvé ça... Enfin, bref, de toute façon, je pense que les marques que tu m'as citées, je suis assez d'accord avec toi. Et donc là, j'ai vu le côté entreprise. Et si je suis une start-up et que je veux souscrire à Circulaire, comment je fais?
Eh ben, les personnes ont juste à nous contacter, en fait, et nous, on les intègre dans notre base de données. Et dès qu'on a une demande d'une grande entreprise ou d'une entreprise, en fait, par exemple, on a une demande sur le plastique, on va aller dans notre base de données, voir toutes les startups qui ont des alternatives sur le plastique.
Et c'est gratuit d'être référencé sur Circulaire?
C'est gratuit.
D'accord.
C'est vraiment gratuit pour les startups, pour les associations, porteuses et porteurs de projets. Et par contre, notre revenu financier vient des grands groupes. Et donc, en fait, on amène l'argent des grands groupes dans les startups.
C'est génial. Et toi, en termes d'écologie, donc je sais que tu es donc que tu adores voyager, mais surtout, maintenant, tu m'as dit surfer, ça, je ne savais pas. Est-ce que tu as toujours été un écolo, on va dire, convaincu, militant? Enfin, j'aime pas trop le terme militant qui fait un peu extrême, mais quelles sont tes actions éco-responsables au quotidien, typiquement? Mis à part venir à pied jusqu'ici, à côté.
Alors, pour ta première question, est-ce que j'ai toujours été un militant? Militant, c'est vrai que c'est un peu fort. Je pense que j'ai toujours été sensible à la thématique environnementale parce que j'ai des parents très engagés sur la thématique.
Toujours, ils ont toujours, depuis que
qui étaient chez Attac, chez Greenpeace. Ma mère, quand on faisait des footings, me disait « ramasse les déchets ». Mais le véritable déclic, ça a dû être à 16-17 ans quand j'ai vu le film « Une vérité qui dérange » d'Al Gore. Et là, je me suis pris vraiment une claque. Je me suis rendu compte de ce qui se passait et je me suis dit « j'ai vraiment envie de ne pas vivre dans un monde déréglé totalement. Je suis sûr qu'on a des alternatives ». Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'impliquer dans les questions environnementales. Et maintenant, au jour le jour, comment je le vis, j'essaie de tendre vers un mode de vie zéro déchet. C'est pas évident. Par contre, il y a des gens qui...
Moi, je sais que j'y arrive absolument pas. Toute transparence.
Honnêtement, c'est très compliqué. Et en même temps, il y a des gens qui nous permettent de... Moi, ce que j'aime bien, c'est les personnes qui nous accompagnent là-dedans. Il y a la famille Zéro Déchet qui a publié un bouquin qui est assez génial. Et il y a Hélène de Vestel, d'Edeni, qui propose des formations sur le zéro déchet. Et ça, vraiment, ça nous permet d'avoir le pied à l'étrier. Pareil, on ne sera pas 100% zéro déchet. Et je pense qu'il ne faut pas trop se
Surtout qu'avec
se
nos vies un peu d'entrepreneurs, c'est compliqué aussi. Et parfois, il vaut mieux boire de l'eau, même si c'est dans une bouteille en plastique, plutôt que se déshydrater. Le nombre de fois où je suis dans le train, je me dis, j'ai soif. Ah oui, mais il n'y a que ça. Bon, non, je ne bois pas. Et puis en fait, à la fin, je suis dans le mal. Et en fait, voilà.
Ouais, je pense qu'il faut pas être trop dur envers soi parce que sinon on arrête. Mais voilà, quand tu disais la bouteille d'eau, c'est des petites actions au quotidien, c'est une gourde, c'est amener ses couverts, c'est amener sa lunchbox. Et au final, avant, ça faisait un peu hippie. Et là, maintenant, ce qui est sympa, c'est que ça fait brancher. Donc, t'as du style en ramenant ta lunchbox. Franchement, c'est génial. Et voilà, il y a vraiment de plus en plus d'alternatives sur ces sujets-là, de plus en plus de solutions. Là, par exemple, ce midi, on a été manger c'est un petit resto. C'est dommage, j'aurais voulu leur faire de la pub, mais on va le chercher. C'est dans des bocaux consignés et on peut les ramener. Donc voilà, ils nous demandent si on veut découvrir ou pas. Donc, il y a vraiment... On est de plus en plus proactifs sur le sujet.
Dans le coin, honnêtement, moi aussi, parfois, je vais déjeuner. Il y a quand même pas mal de jolies enseignes qui proposent ce type de produits très locaux où la carte, finalement, c'est le matin, puisqu'ils regardent en fonction des produits qu'ils ont réussi à trouver chez les producteurs. Et ça, je trouve ça vraiment génial, en fait, de proposer ça.
Complètement. Et puis, et pour ceux qui nous écoutent aussi, en tant que citoyen, comment s'engager dans cette démarche? En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on a un pouvoir immense. On consomme tous les jours. Et ce que j'aime bien dire, c'est que, en fait, le fait de consommer, on ne se rend pas compte que c'est un pouvoir. Si on arrête de consommer les produits d'une entreprise, l'entreprise se retrouve... ça va être problématique pour elle. Et en fait, aujourd'hui, j'aime bien dire qu'on vote plus avec sa carte bancaire qu'avec sa carte électorale. La carte électorale, on va l'utiliser une fois par an, voire pas du tout. Et la carte bancaire, on l'utilise tous les jours. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions, notamment des applications comme Yuka, comme Clear Fashion, comme Greenly. Donc Yuka, c'est pour voir l'impact des aliments. Clear Fashion, c'est pour voir l'impact de vos vêtements. Greenly, c'est pour voir l'impact CO2 de votre consommation. Et tout ça, ça permet de faire des choix éclairés au moment de la consommation. Donc voilà, c'est plein de petites astuces qui nous permettent de consommer de façon un peu plus consciente et d'envoyer aussi les bons messages aux entreprises.
Le consommateur est un consomme-acteur. C'est ça qu'il faut leur transmettre comme message.
C'est ça, consomme-acteur. Je disais consomme-acteur et maintenant je me dis, on n'est plus consomme-acteur, on est citoyen. Parce qu'à chaque fois qu'on consomme, on vote. On vote pour une entreprise. Et ce qui est génial, c'est qu'on a ce pouvoir de dire oui ou non. Et ça, on a tendance à l'oublier.
Super. Est-ce que j'ai oublié de mentionner des choses sur circulaire que tu aimerais nous rajouter dans l'empreinte?
Que toutes les entreprises qui ont des solutions circulaires n'hésitent pas à nous contacter. L'idée, c'est vraiment de les mettre en avant et puis que les entreprises intéressées pour mettre en place l'économie circulaire n'hésitent pas aussi à venir nous voir. En tout cas, on est extrêmement positif, même pendant cette période de Covid.
Ouais, j'avais posé justement cette question. Ça allait le Covid? Ça a pas, enfin, ça allait. C'est horrible comme ça allait le Covid. Tu l'as senti comment, toi?
Forcément, comme.
Ça allait, on y est toujours, honnêtement, dedans.
Ouais, exactement. Nous, ça nous a impacté, c'est sûr. On a eu 2 mois difficiles. Et en même temps, maintenant, là, on sent qu'il y a un vrai retour. Enfin, là, on est à 100%. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant cette année. Et le Covid a pris un peu le pas dessus. On a oublié qu'il y avait une loi sur l'économie circulaire qui est parue avec la fin du plastique à usage unique d'ici 2040. Donc, pour les citoyens, c'est dans plusieurs générations. Pour les entreprises, c'est demain. Donc, ça, c'est très fort.
Il y a aussi les entreprises à mission. Je pense que Danone avait été devenu entreprise à mission, etc. Donc, Ça avance tout ça.
Ça avance. Il y a eu quelque chose d'incroyable aussi. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens qui sont engagés, qui ont fait des propositions fortes au gouvernement. Là, le plan de relance, il y a 100 milliards demain qui vont être annoncés. Sur les 100 milliards, il y a 40 milliards qui sont pour presque des activités de relocalisation et 30 milliards sur la transition. Et tout ça, en fait, c'est couvert par le Covid et il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et donc, moi, je suis quand même résolument positif sur les prochaines années. Et je pense qu'en fait, ce Covid nous fait rendre compte que le modèle actuel ne va pas du tout. On marche sur la tête. C'est encore un nouveau rappel. Et je pense que le changement va être d'autant plus rapide.
Merci, Raphaël.
Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté l'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Podinstall, Deezer, Bababam et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et même voter 5 petites étoiles sur Apple Podcast pour l'Empreinte. Et puis proposez-moi des profils aussi inspirants que Raphaël. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'Empreinte.